Un monologue d'Ernest Depré, le ver de terre amoureux. C'était un ver de terre, un joli ver de terre, un ver de terre heureux de vivre, solitaire, ayant perdu tous ses parents, petits et grands. Il n'avait qu'un tuteur qui lui servait de mère. C'était donc un ver orphelin. Mais puisqu'il faut toujours qu'on raille, comme il était de forte taille, on l'appelait l'Alexandrin. À l'heure où ce récit commence, il atteignait ses 18 jours. Il sortait du collège avec son innocence, et sur l'arbre de la science, il rêvait de cueillir la pomme des amours. Il était beau, bien fait, d'agréable tournure. Les sinuosités de sa souple structure ne se retrouvaient pas dans son esprit loyal. Dans un salon, il ne faisait pas mal, avec grâce, rampant aux pieds des jeunes filles. Et l'on voyait rougir les plus gentilles, et leurs jeunes regards s'emplirent d'un tendre émoi. Il est si doux d'avoir le cœur d'un ver à soi. Il habitait au pied d'un saule, un trou caché dans le gazon, près de la rivière où court un frisson, et que la libellule frôle en la printanière saison. Cette retraite avait pour lui des charmes. Elle avait vu couler ses larmes lorsque, par un beau jour d'été, son pauvre père avait été tranché férocement par un grand coup de bêche. Et sa mémoire toute fraîche lui rappelait sa mère, une blonde à l'œil noir, qui, certain soir, rentrant chez elle, s'était vue emportée au bec d'une hirondelle. Quand les canards vont deux par deux, qu'on voit errer d'un air tranquille deux par deux les sergents de ville lorsque l'on n'a pas besoin d'eux, lorsque vont deux par deux les rimes des distiques, les chambres du gouvernement et les escargots sympathiques, rester seul manque d'agrément. Or, l'après-midi d'un dimanche, comme notre héros se promenait pensif, il aperçut, rôdant autour d'une pervenche, l'amoureuse rêvée, et pif, paf, si vous aimez mieux, son cœur se mit à battre 4 à 4. Ce fut le coup de foudre immense de l'amour. Elle était souple, et frêle, et mince, et blanche, et belle. Rien qu'à la voir, beaucoup de chance était pour qu'elle fût encore demoiselle. Il la suivit longtemps à travers les chemins, sans oser lui parler, par peur du ridicule. Mais quand tomba le crépuscule, il prit son courage à deux mains. Comme un épais tapis de mousse, sa déclaration fut douce. Sa parole, chaude liqueur, à flots pressés grisa son cœur. Et dans le bois profond qui bouge, sous le vol de l'oiseau moqueur, elle entra pour cacher son rouge. Là, comme on n'y voyait pas clair, son front s'illumina d'une verte auréole. Il aimait une luciole. L'étoile avait trouvé son ver. Lorsque l'aube couleur d'opale s'étendit sur l'horizon pâle, bien que très joyeux, notre ami n'avait triomphé qu'à demi. Mais il emportait la promesse de se voir payer de retour, demain de dire à deux la messe, la tendre messe de l'amour. Dans l'herbe humide de rosée qui rise le soleil levant, il cheminait le nez au vent, la cervelle d'espoir grisée. C'était son premier rendez-vous. En lui naissaient des désirs fous. Il trouvait le printemps plus doux, les bois plus remplis de mystère. Fouetté par l'air matinal, il sentait son corps virginal frémir d'un voluptueux mal, et rentrait chez lui, ventre à terre. Soudain, il aperçut, au détour d'un sentier, un homme qui marchait très vite. Son métier, à n'en juger que par son grand chapeau de paille, et le roseau de longue taille qu'il portait sur l'épaule, et son panier de jonc, son métier, dis-je, était de ceux que le goujon redoute quand, par aventure, il craint quelque peu la friture. Il passa, se baissa, prit entre l'index et le pouce notre verre qui n'était pas fier, et l'introduisit sans secousse, d'un mouvement sûr, quoique lent, dans une belle boîte en superbe fer blanc. Puis il boucla le tout, et la lumière pure du soleil disparut dans une nuit obscure. Ô stupeur, changement terrible de décor, tout à l'heure être libre encore, courir gaillardement par les monts et la plaine, respirer l'aubépine, avoir la tête pleine de projets amoureux, de rêves caressants et d'espoirs indécents, et se trouver en proie aux guignes, aux instincts malfaisants d'un pêcheur à la ligne. Bien que de sa nature il ne fût point peureux, sa position était faite pour que, s'il eût eu des cheveux, ils se dressassent sur sa tête. S'évader? Impossible. Il est dans la boîte aux asticots. La fermeture est hermétique et le système breveté. L'instant devient critique. L'homme s'est arrêté. Un choc. C'est sur le sol la boîte que l'on jette. À mourir, transpercé par l'infâme hameçon, mourir happé par une ablette, mourir, mourir encore garçon. Mais un rayon de jour jusqu'à ses yeux pénètre. Sur un caillou, la boîte en tombant a porté. Il s'est produit une fente. Fenêtre ouverte sur la liberté. « À moi, Monte-Cristo, dit-il, à moi, Latude !» Certes, la tentative est rude. La sortie est étroite. Il faut, pour avancer, péniblement par le trou se glisser, se faire mince autant qu'une actrice fluette dont le renom est venu jusqu'à lui. Le pourra-t-il seulement? Oui, voici déjà qu'il a passé sa tête, puis un anneau. Puis l'autre. Vite, vite, il faut qu'il évite son cruel bourreau. Quand il va plus vite, il laisse un lambeau de sa pauvre peau. Tant pis. Vite, vite, le ciel est trop beau, trop douce la fuite. Il s'allonge, il grandit, il se fait si petit que le voilà presque sorti. « Ma luciole bien-aimée, murmure-t-il, au rendez-vous tu me verras à tes genoux. « Nous nous aimerons bien, nous nous perdrons dans la nuit embaumée. » Mais d'où vient qu'il n'avance plus? Pourquoi s'épuise-t-il en efforts superflus? Et qui le retient en arrière? Personne. Qu'est-ce donc? Son corps, qui docilement jusqu'alors avait suivi l'impulsion première, se trouve arrêté par l'extrémité. Le pêcheur, qui s'est absenté, revient d'un pas précipité. Il ne peut échapper à la fatalité. Adieu, forêt. Adieu, campagne. Adieu, chaste et tendre compagne. Adieu, trou paternel. Adieu, cieux éclatants, adieu, printemps rempli de charme, voici venir le printemps des douloureuses larmes. Il ne verra plus la fuite du jour, il ne verra plus l'immensité bleue, car le pauvre ver, en faisant sa cour, pour ne pas oublier son rendez-vous d'amour, avait fait un nœud à sa queue.